Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Donc, bienvenue dans cette table ronde qui va s'intéresser plutôt à l'expression des mondes perçus à travers les langages. Que ce soit des langages naturels ou des langages informatiques, qui relèvent de la partie récit ou de la partie modèle. Je pense qu'on va discuter sur l'ensemble des termes. Et le langage, ça reste un outil fondamental pour la représentation et la compréhension des mondes sensibles qui nous entourent. Mais selon les disciplines et les sensibilités, on s'en est bien rendu compte déjà lors des tables rondes d'hier ou d'aujourd'hui, de ce matin, la compréhension et les utilisations varient beaucoup. Donc, cette diversité souligne l'importance de mettre en relation la perception des mondes et des ambiances avec les expressions qui en découlent, et ainsi que la façon dont les langages évoluent en fonction des expériences sensibles. Donc, on va essayer de répondre à différentes questions, notamment comment pouvons-nous exprimer des sensations souvent difficiles à verbaliser, comment une intelligence insensible peut comprendre le sensible, c'est pas Abdelkader. Nous allons explorer ces différentes questions et observer comment les expériences sensibles participent à la modification, à l'évolution des langages existants. Et bon, je vais utiliser mon langage, donc on va aussi travailler sur la boucle de rétroaction qui relie les perceptions du monde et les ambiances avec l'expression et l'évolution de ces langages, bien qu'on ait commencé à explorer ces questions lors de la table ronde précédente. Donc nous accueillons pour discuter avec Jean-Louis, qui va co-animer la table ronde avec moi, Nathalie Audace, géographe à l'Université de Grenoble-Alpes, Abdelkader Ben Sassi, architecte à l'École d'architecture de Grenoble, Théo Marchal, lui aussi architecte à l'École d'architecture de Grenoble, et Clémentin Grachet, architecte et doctorant au créneau. Et donc, je propose de vous donner la parole dans l'ordre dans l'ordre du programme. Jean-Louis, si tu as quelque chose.
Oui, dans l'ordre du programme, en sachant que le format de la table ronde de ce matin était très interactif, donc soyez bref. Pour qu'on puisse largement interagir. Une dizaine de minutes chacun.
Donc, Nathalie, hop.
Je vais repartir des questions que vous m'avez envoyées, si c'est voilà, comme ça que vous imaginez la chose, d'accord. Donc, sur la compréhension du terme de langage, je dois avouer très honnêtement que je n'étais pas, avant cette table ronde, m'interroger sur qu'est-ce que le langage pour moi, donc ça m'a fait faire cet exercice. Et finalement, c'était intéressant de se dire qu'est-ce que je mettrais derrière le mot langage. Donc voilà, au début, moi, je me suis dit, c'est un code, en fait, le langage avec des signes qui, pour moi, nous permettent de communiquer, d'entrer en relation les uns avec les autres. Et que ce soit, moi, je le vois surtout à l'écrit ou à l'oral. Et bien sûr, aussi avec un langage corporel qui peut peut-être savoir décrypter, déchiffrer, et avoir justement les codes pour le comprendre. Durant ma thèse, j'ai eu un bouquin comme ça, j'ai oublié le titre, mais j'y pense là, qui m'avait aidé aussi à me dire quand j'en ai une personne de quel est ce langage corporel, qu'est-ce qu'il vient de nous dire en plus, qui est parfois différent de ce que va dire la personne par ses mots. En tout cas, voilà, moi je me questionne aujourd'hui sur le langage aussi scientifique. On a un langage qui nous est propre, on a un langage qui même peut varier d'une discipline à l'autre et qui fait que parfois on ne se comprend pas. Les uns avec les autres, sous un même mot, on ne va pas mettre la même chose. Et donc, moi j'ai eu envie de me dire, ne serait-ce que dans la discipline aménagement, urbanisme, géographie, voilà, on a une manière de s'exprimer entre chercheurs qui ne sera peut-être pas la même que celle des professionnels du secteur et qui peut parfois du coup amener des formes de non-compréhension, de communication pas très satisfaisante. Donc, ce que je vais vous présenter, finalement, c'est une manière de s'exprimer un peu différente de celle qui est le langage académique classique, et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer nos résultats de recherche de manière autre, et notamment qu'il soit, pour que ce soit accessible un peu plus au grand public ou à des élus ou à des associations, des techniciens, des experts de tel ou tel domaine, et qu'on ait ainsi une meilleure communication, une meilleure interaction entre ces mondes qui certes se côtoient, mais qui pour moi ne sont pas toujours complètement, c'est pas très très satisfaisant à mon sens, cette interaction. Et donc, moi, j'ai envie de travailler aujourd'hui sur un langage qui utilise des références, alors je dirais littéraires, un peu poétiques, un peu lyriques, enfin, vous voyez, travailler une restitution qui soit différente, parce que moi, je m'intéresse au langage des ressentis. J'ai fait une thèse sur le rapport affectif à l'espace, et donc, ce que je cherche à comprendre, c'est comment les personnes que j'enquête, soit des adultes ou plus récemment des enfants, ou moi-même, pendant la période de confinement, suite à un appel de Rainer Cassig, on a fait l'auto-ethnographie depuis nos fenêtres. Comment finalement on exprime ce langage des ressentis, ces sensations, ces perceptions, et finalement qui pour moi sont le reflet de notre relation à notre environnement, qu'il soit physique ou social, et qui donc traduisent d'une certaine manière nos états d'être, nos manières de faire, qui sont eux-mêmes reliés à notre propre sensibilité. Et donc, voilà, le langage, c'est une forme d'expression que l'on choisit pour, à mon sens, extérioriser la manière dont on intériorise ben, notre sensibilité, notre relation sensible, pardon, au monde. Donc, exprimer par les langages, moi, c'est chez moi chercher à faire émerger les manières d'être et de faire affectivement avec les espaces. Et j'ai testé pour cela différentes techniques d'enquête, que ce soit en mémoire, en thèse, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais en tout cas, l'idée est d'arriver à dépasser ce que Yves Chalas avait identifié comme le discours d'imagerie et d'ignorance. C'est fréquemment celui qui est mobilisé parce que les personnes se cachent derrière ça en disant « je ne suis pas spécialiste de la question ». Donc, je ne peux pas y répondre, ou alors je vais aller vers l'imagerie, vers donc les stéréotypes, les choses que l'on véhicule fréquemment et qui voilà, se cacher d'une certaine manière derrière ça. Et l'idée est plutôt d'atteindre un discours d'existence, donc le discours vraiment de la personne sur soi. Et ça, c'est compliqué, surtout quand on travaille sur de l'intime, sur de l'affect, et de délivrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas ses ressentis les plus profonds, que parfois soi-même on n'a même pas conscientisé d'ailleurs. C'est souvent ce que j'avais comme retour. Donc, c'est chercher à faire exprimer l'inconscient, quelque part, de la personne. Cet être-là, je reprends à Heidegger, où, pour pouvoir comprendre ce faire avec l'espace que nomme Matisse. Donc, passer les expérimentations de diverses techniques d'entretien, il y en a une qui fonctionnait assez bien, c'est sur celle-là que je voudrais porter une attention aujourd'hui et qui est sur donc, la diapo suivante, si vous voulez bien, c'est proposer une réactivation d'entretien en montrant à l'interviewé une carte qui est censée représenter sa vie de manière assez globale, hein, donc la carte du beau, qui représente les lieux qu'il fréquente et les types d'activités qu'il y fait avec les couleurs et les modes de déplacement aussi sont figurés, ainsi que la fréquence en fonction de l'épaisseur du trait. Donc on a le cycle de vie entier, puis on peut avoir des portions de vie, comme celle qui est en bas, un extrait, on va dire, de cette carte qui est en haut. Et en fait, en positionnant cette carte devant la personne, l'enquêté n'est plus alors penseur de l'objet, mais pensif par rapport à cet objet. Et du coup, il va s'exprimer de manière un peu moins réfléchie. Il va se projeter dans cette carte, dans ce qu'elle ne représente pas, ou mal. Et du coup, bah, comme c'est un miroir qui n'est pas tout à fait exact, peut-être un peu déformant, et ben, il va éprouver le besoin de corriger. Et il y aura peut-être moins d'autocensure, et donc moins de liens de cause à effet qui sont recherchés. Et on aura un discours plus sur la sphère de l'intime, sur la sphère des sentiments, et voilà, un peu plus proche de ce que pourrait être le discours d'existence, donc ce discours sur soi qui dévoile des pratiques et des usages vraiment authentiques et pas ce qu'il serait bien de dire que je fais dans tel espace parce que tout le monde fait ça. Et cet objet, en fait, qui est une sorte d'objet transitionnel, finalement, je m'en suis servi, alors que c'est cette forme-là ou pas, à différents moments. Ça peut être sur la présentation de photographies pour effectivement capter personne et qu'elle s'exprime à partir de cette photo. Et pendant la période de confinement, quand on a fait la recherche auto-ethnographique à partir de nos fenêtres pour observer justement, capter cette ambiance de confinement, j'ai aussi, Grégoire m'en excusera, je vais avouer que j'ai fait ces enregistrements sonores qu'il nous disait de faire. À un moment donné, on devait enregistrer 3 fois dans la journée, je crois 4 minutes 33 des sons que l'on percevait à travers nos fenêtres. Et moi, je l'ai utilisé de manière autre, je l'ai fait. Et après, je l'utilisais comme un objet qui me permettait de me remettre dans cette ambiance à 8h, à midi, à 17h, je ne sais plus quel était l'horaire, 8h, 14h, 17h. Et à partir de cette remise en condition, par l'écoute, je transcrivais à l'écrit cette ambiance pour essayer de la retraduire, mais tout en l'écoutant. Donc c'est une manière de recréer, de représenter et d'aller dans une description sensible dans laquelle je n'avais pas envie de cacher ma propre sensibilité. Au contraire, même je trouve qu'elle était l'interface par laquelle je passais. Et donc voilà, puis je faisais ça en fait pour moi à la base. Et puis je me suis dit, mais finalement, ça s'écarte des normes académiques, mais en fait, ça apporte peut-être un supplément, un supplément d'âme à nos textes. Et voilà, j'ai envie de dire que si on se met dans cette position un peu de lâcher prise, une forme de distance avec ce qu'on fait, on peut avoir une écriture peut-être plus poétique, en tout cas moins conventionnelle, et dévoiler d'autres choses. Et là, c'était essayer de dévoiler une perception en acte pendant cette période de confinement. Et sur la diapo suivante, je vais peut-être vous faire état d'une autre manière aussi d'écrire des expériences, de décrire une réalité sensible qui est celle des enfants qu'on a interrogés dans le cadre de l'ANR Mobile Kids sur leur trajet entre l'école et le domicile. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre les processus d'autonomisation des enfants. Je ne vais pas du tout vous parler d'autonomie d'enfant aujourd'hui, mais plutôt comment moi j'ai écouté justement les parcours commentés qu'on a fait avec ces enfants. On avait donc un enregistrement audio de ces parcours et je les ai écoutés avec un regard un peu distancié, un regard un peu extérieur. Je n'étais pas la personne ayant fait le parcours que j'écoutais, donc j'étais attentive à cette double relation qui se met en place entre l'enfant et le chercheur et entre l'enfant et l'environnement. Et est-ce que cette double relation vient dévoiler finalement qui est des silences, des hésitations, des modulations dans la marche, des rires gênés ou pas, et qui viennent apporter d'autres choses, des éléments sur lesquels on ne se serait pas penché, parce que ce n'était pas dans la grille d'analyse, clairement, mais qui, moi, m'ont sauté, j'allais dire aux yeux, aux oreilles, à l'écoute, et que j'ai eu envie d'écrire dans ce qu'on a appelé un texte interprétatif, parce qu'en fait, on devait faire un résumé de notre analyse, et moi, j'ai eu envie de faire ce résumé avec ces descriptions d'ambiance, finalement. Je trouvais que ensemble, toutes ces petites choses pouvaient faire un récit d'ambiance qui nous replonge dans cette expérience de terrain et qui nous amène à découvrir des choses. Comme je ne dois pas être trop longue, je ne vais peut-être pas vous lire un extrait de récit, mais en tout cas, je vous inviterai, pour ceux qui sont à Nantes, à aller écouter le montage sonore fait par Jules de tous ces extraits de parcours commentés et sur lesquels je suis venue raconter un récit, en fait, qui est un récit fiction, qui dévoile une partie des résultats, parce qu'il fallait faire court. Donc il y a un petit récit à écouter pour vous immerger dans ces parcours commentés sur votre pause déjeuner. Et il est accessible aussi en ligne, je vous montrerai tout à l'heure pour ceux qui ne peuvent pas aller écouter. Et donc ce récit, comment je l'ai fait alors voilà, il y a en bas là, comment je me suis positionnée, donc je l'ai dit, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Donc je suis partie de textes interprétatifs, et une fois que j'avais plein de petits textes comme ça pour chaque enquête, je les ai tous relus, et j'ai essayé de voir finalement est-ce qu'il y a des éléments sensoriels, émotionnels qui ressortent, qui sont communs à plusieurs parcours, pour essayer de les regrouper et d'exprimer une sorte de tendance, de lien avec le lieu, avec les lieux traversés, et d'avoir des prémices de résultats finalement sur ce par ces récits d'ambiance. Et donc j'ai écrit ce que j'ai appelé des esquisses ambientales, esquisses parce que pour moi on était dans d'une phase pré-résultat, mais qui montrait voilà, que les enfants ont différentes formes de mise en relation avec l'espace, que ça peut être ce que j'ai appelé l'apnée, ou au contraire on apprivoise vraiment ces lieux, ou on est dans une forme de redécouverte, parce qu'on fait ça avec un chercheur, et que c'est pas avec son parent ou avec ses copains, donc on peut peut-être se permettre d'autres choses. Et sachant que voilà, un même parcours peut emprunter à différentes tendances. C'est-à-dire que par moment, l'apnée, c'est souvent le dessin ici parce qu'il y a trop de circulation automobile autour et que c'est juste insupportable pour les enfants enquêtés, certains du moins. Et puis par moment, on peut avoir ce plaisir de la redécouverte d'un trajet quotidien et de se laisser aller à explorer encore davantage les faces. Et à partir des esquisses, diapo suivante, je me suis dit, bon, ok, on doit restituer notre recherche lors d'une exposition et d'une table ronde qui avait lieu donc, à Rennes, avec présence d'élus, d'associations de promotion du vélo, de mode actif, et des parents, des enfants qu'on avait enquêtés, etc. Et donc, une forme de vulgarisation de nos résultats. Et c'est là que j'ai proposé cette idée de récifier. J'ai créé donc deux personnages, deux figures un peu idéales typiques, pour faire ressortir finalement des éléments saillants, mais aussi des choses très anecdotiques, au travers de ces deux personnages, faire ressortir les types de trajectoires, quel type d'environnement sont traversés, par quel mode de déplacement, quelles sont les conditions météo, quelles sont les formes attentionnelles, quelles sont ce que les enfants sélectionnent dans leur environnement, est-ce qu'ils les mettent en action ensuite ou pas. Et donc, ces personnages, ben, ils sont issus d'anecdotes, de faits réels, de paroles issues de tous ces enfants, ou quasiment tous ces enfants, tous âges confondus, parce qu'ils étaient entre le CM1 et le CM2. Et un personnage renferme à la fois autant de petites filles que de petits garçons, parce que les prénoms sont mixtes, donc il n'y a pas d'analyse genrée, en tout cas, dans ces personnages. Ce qui va les distinguer, c'est surtout une appartenance territoriale, parce qu'on avait travaillé sur deux terrains d'enquête, un en ville-centre et un plus périurbain. Et donc, c'était voilà, montrer s'il y avait des différences entre ces deux types de territoires. Et ce qui a fait, surtout permis de travailler, c'est à partir des situations et des émotions rencontrées que ces personnages ont pu être créés en lien avec une illustratrice, ce n'est pas moi qui ai fait ces dessins, mais Isabelle Rinquin, comme vous voyez la signature en bas, avec qui je travaille et que je vais continuer de travailler prochainement. Donc voilà, il y a une forme de fiction, mais pas complètement imaginaire, qui est basée donc, sur des éléments réels et qui viennent retraduire notre recherche de manière plus accessible. Les questions qui sont ici posées sont quelque part celles qu'on se posait dans la recherche, mais posées de manière plus accessible pour qu'un enfant qui vienne visiter l'exposition bah, comprenne, ses parents également, et qu'on ait quand même des éléments de réponse à notre travail, à notre recherche. La diapo suivante, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah c'est le, voilà, c'est pour ceux qui sont en ligne, si vous voulez aller voir un peu à quoi ressemble ce récit fiction, en tout cas cet extrait de récit fiction. Il y a un poster et un fichier son, un montage sonore réalisé donc par Jules pour aller écouter si vous le souhaitez. Et donc, pourquoi faire tout ça? Est-ce que c'est une forme de compréhension pour moi d'un phénomène particulier? Oui, je trouve que j'ai envie de rendre compte de choses qui ne sont pas forcément démontrables. Et je trouve qu'en renouvelant un petit peu l'écriture académique, ben, on peut apporter des suppléments, des choses qui seraient restées dans l'ombre, sinon qui seraient restées dans les carnets de chercheurs, ou dans, moi je me serais dit, ah bah oui, dans les bandes, il y avait ça, c'était chouette, il y avait telle ambiance, je l'ai regardé pour moi, j'en aurais discuté comme ça. Et c'est quelque part aussi, donc en plus de ce supplément de réponse, ça montre un peu les coulisses de la recherche, quelque part, comment on arrive finalement à notre matériau final. Et puis, ça dit qu'il y a bien sûr une forme de subjectivité dans l'analyse et que peut-être, voilà, on peut l'assumer un peu plus. Et que, voilà, on peut chercher d'autres formes d'écriture qui pourraient aller vers un réalisme un peu plus poussé. Et donc jouer avec des complémentarités. Alors je ne dis pas que je suis une experte là-dedans, c'est quelque chose, voilà, sur quoi j'ai envie de m'essayer, mais qui me semble assez intéressant, et voilà, qui vient dire qu'en tant que chercheur sur ces thématiques-là, on est nécessairement imprégné à un moment donné de notre terrain, de l'enquête, et que c'est difficile de s'en départir, et que peut-être qu'on ne doit pas le faire finalement. Et on doit voilà, prendre compte de ça pour aller... faire une proposition d'immersion, pour reprendre ce qui était dit ce matin, au lecteur dans ce registre sensible et émotionnel qui est l'expérience là, du terrain, et avec des enfants particulièrement. Et sur la dernière question que vous nous aviez posée sur la dualité entre valeurs scientifiques versus valeurs scientifiques du langage versus compréhension par le public, effectivement, moi je trouve qu'il faut qu'on assume cette présence du chercheur et non pas l'effacer, comme je le disais tout à l'heure, et que ben, cette ouverture à la sensibilité, elle met en débat bien sûr sur la posture du chercheur. Est-ce que voilà, ça veut dire qu'on accepte qu'on peut vraiment être ancré sur le terrain, qu'on peut se laisser affecter par ce terrain, par ce matériau, parce qu'il imprègne notre corps, nos sens, et que ben, voilà, finalement, notre intuition, elle est là aussi. Je pense qu'une recherche, elle part aussi souvent avec de l'intuition, et qu'on n'ose peut-être pas toujours le dire, et que cette intuition, elle a peut-être aussi une valeur scientifique. Et voilà, et je pense que le ressenti personnel du chercheur peut s'ajouter à des formes d'observation, des formes de compréhension, et elle n'est pas en contradiction avec elle, à mon sens. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais j'avais plein de choses à vous dire finalement. Et voir si ça va peut-être résonner avec mes collègues ou pas, de quelle manière. En tout cas, j'ai
bien
vu que Clémentin Maché était sur aussi.
Oui, c'est ça, absolument. Bien. Merci beaucoup, Nathalie. Et justement, c'est l'occasion de tresser un lien, en effet, entre vos deux travaux qui ont des parentés tout à fait indéniables. Une ou deux questions pour débattre et puis faire la transition avec les prochains intervenants. Vous avez parlé donc du littéraire, vous avez parlé de d'autres formes d'écriture. Vous avez évoqué l'idée de vous adresser à un public plus élargi. Vous en êtes même arrivé à la question du réalisme, qui est, je dirais, sans doute, c'est la question de fond, hein, c'est la dernière instance, le réel. Mais je vais vous poser une question anecdotique et de curiosité. Quel est, selon vous, l'écrivain qui a le mieux réussi à se confronter à ce glorieux challenge?
Alors, moi, ce qui me vient d'emblée comme ça, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse, en tout cas, c'est ça qui me vient et qui m'a beaucoup marqué, c'est Georges Perec.
Oui.
Et est-ce que ce serait lui? J'en sais rien. En tout cas, je me souviens de cette lecture dans un train en allant faire mon terrain d'enquête et de me dire, mais en fait, il dit des choses super banales et super évidentes, mais en fait, on ne les dit jamais. Enfin, on se dit que c'est comme si c'était trop évident pour être dit et qu'on va tout de suite chercher un truc où. Je ne sais pas, et ça m'avait marqué.
Oui, et très bizarrement.
Alors, j'ai gardé ça comme.
Et très bizarrement, c'est un écrivain qui s'est acharné, attaché en tout cas, à décrire la banalité. Et il y a rarement autant de visages d'écrivains qui incarnent leur œuvre que le visage de Georges Perec. C'est bizarre, c'est un type qui en effet a cherché à décrire le commun, le banal, le quotidien. Et son visage, avec sa tignasse frisée, incarne tous ses livres. Pour moi, ça reste un paradoxe à jamais. Et les promenades de Julien Gracq sur l'île batailleuse.
Oui, aussi.
Julien
Gracq, je l'ai vu aussi, ouais.
Et votre préféré, alors, c'est qui? Parce que celui qui est le mieux parvenu, selon vous, c'est Georges Perec. Mais votre préféré, en tant que lectrice, votre écrivain préféré, c'est peut-être Georges Perec aussi.
Il y a l'écrivain, on n'est pas ouvert, on peut sortir de.
Ben oui, puisque c'est, au fond, c'est votre challenge.
Un autre écrivain qui m'a beaucoup marqué, c'est Maupassant.
Ouais.
Guy de Maupassant.
Ouais.
Voilà. Alors peut-être que oui, mais si je suis complètement honnête, dans mes rêves de petite fille, je voulais être écrivaine.
Ah, ça devient intéressant.
Et je pense que je me suis auto-censurée. Et voilà, et peut-être que les choses reviennent. Chasse naturelle et remis au galop, voilà, c'est peut-être un peu ça qui se passe. Et avec la recherche, voilà, trouver d'autres. D'autres moyens d'y arriver finalement et de conjuguer de choses intéressantes, puisque la recherche, je n'ai pas rêvé d'être enseignant-chercheur en étant petite, et c'est quelque chose qui est voilà, arrivé petit à petit dans mes études, et puis finalement c'est chouette, on se pose des questions, on fait des enquêtes, on écrit, on réfléchit, on lit, enfin, c'est super. Donc voilà, j'ai été vers ce métier, et puis je pense que finalement il peut me mener à gérer peut-être j'allais dire de passion, je ne sais pas si on peut aller
jusque-là, mais
en tout cas,
des choses
qui
me
plaisent et qui me
motivent.
Voilà. Merci pour les questions.
Non, mais il y en a peut-être d'autres parmi vous. Non?
On va peut-être.
Bon, Myriam,
justement. Oui, moi, il y a au tout début de votre intervention, il y a une phrase qui a résonné.
Donc vous nous avez exprimé ce qu'était le langage, vous avez dit, si vous bien noté, c'est un code avec des signes qui permettent de mettre en relation, de communiquer. Et je pense qu'avec Abdelkader, on va avoir une autre vision de ce qu'un code avec les signes peut permettre de communiquer.
Alors c'était un peu provocateur, mais j'ai justement fait exprès de dire ça en me disant normalement ça devrait faire réagir mes collègues. Parce que moi quand je dis code, clairement je ne sais pas coder, hein, donc je pense qu'il y a vraiment...
Mais code comme...
J'ai envie de voir comment les autres utilisent ce terme de langage et je suis curieuse d'entendre Abdelkader.
Merci pour cette transition. Effectivement, moi aussi, j'avais repéré que Nathalie, merci, tu m'as offert un point d'accroche pour enchaîner. Et effectivement, la définition que tu avais donnée au départ relève ce qu'on trouve généralement dans le domaine des sciences de la communication qui présente le langage comme un système de signes qui permet à un groupe traditionnellement humain de communiquer. Et à cette définition des sciences de communication, si je dois ajouter quelque chose, c'est dire plutôt groupe traditionnellement, parce qu'en linguistique, quand même, elle a peut maintenant facilement de saussure, c'est déjà un siècle et demi, voire deux. Donc la notion de groupe humain, c'est plutôt maintenant groupe entre entités humaines, entités artificielles ou homme-machine aussi. Donc voilà, donc le groupe au sens un peu plus général. La question de fond qui se pose pour moi, est-ce qu'on peut comprendre en dehors de tout langage? Parce que dans cette première définition, le langage en fait est un médium, c'est un instrument qui nous permet, soit entre êtres humains, soit humains et machines, de communiquer. Mais est-ce qu'on peut aussi, si on dit communiquer, pourquoi? C'est pour comprendre, pour interpréter, pour interagir. Donc est-ce qu'on peut comprendre en dehors de tout langage? Mon postulat, c'est que le langage, certes, est un médium, mais il n'est pas seulement un médium, mais aussi un outil, un cadre de référence dans lequel la pensée s'élabore. La pensée se schématise à travers, dans le cadre référentiel dans lequel on parle ou dans lequel on communique. Du coup, le langage, il prend ici deux faces. Une face un peu système, outil, mais une face aussi de modèle, de référence dans lequel les choses se mettent en place. Je prends un exemple pour illustrer ce postulat. Celui de, si je prends la langue française, par exemple, je prends deux pronoms personnels, tu et vous. Dans la langue française, tu et vous, en fait, sont sans genre et s'adressent à la fois à un homme et à la fois à une femme. Par conséquent, alors que dans d'autres langues, par exemple, je prends l'arabe, le tu, il s'exprime un tu pour féminin, un ti, et un tu pour masculin, un ta, et le vous, pareil, donc il y a le vous pluriel masculin et féminin. J'ajoute à cela, par exemple, la notion de, dans la langue française, par exemple, il y a le singulier. Il y a le un et le singulier et le pluriel. Le singulier et le pluriel. Entre les deux, il n'y a pas quelque chose. Donc, il n'y a pas le deux. Alors, par exemple, si je prends la langue arabe, il y a le singulier, il y a le deux, vous deux. Ensuite, il y a le pluriel plus que trois. Ce qui amène à comprendre, pour illustrer cette idée que le langage, aussi, c'est un cadre de référence, le tu et le vous qui ne distinguent pas entre homme et femme, ça amène, en fait, à deux choses. Soit à une exclusion de la moitié de la société, c'est-à-dire que tu, dans le sens où tu, ça prend plutôt par défaut masculin, soit ça amène à la confusion parce que donc on va se dire qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, et par conséquent, à la lumière de quoi, moi je comprends toutes les discussions autour de genre actuellement. C'est-à-dire que comment le cadre référentiel de la langue dans laquelle on parle peut prédéterminer une certaine façon de voir les choses, alors que si on sort de ce cadre référentiel de la langue, peut-être qu'on peut voir les choses différemment. Donc, le langage, pour moi, il est à la fois un médium, certes, de communication, mais aussi un cadre dans lequel on pense, dans lequel aussi, peut-être lui qui schématise, structure la pensée. Et donc, du coup, lorsque je prends maintenant comme exemple qui peut nous intéresser, par exemple, le langage de modélisation, langage de récit, langage graphique, langage de dessin, Et si je prends, pour revenir à la question de code, donc si je prends le cas de langage de modélisation, donc bien plutôt langage de programmation, vous voyez que bien le fait de réfléchir, de formaliser les choses d'une certaine manière, de cette manière-là, de telle manière que la machine arrive à comprendre, implique d'une certaine manière implicitement un cadre référentiel de pensée qui n'est pas le même que celui de récit, par exemple. Voilà. Donc je pense que c'est important de souligner cela. Un autre élément, c'est celui de est-ce que exprimé par le langage, qu'est-ce que ça peut signifier ou qu'est-ce que ça peut expliciter. La proposition que je peux vous soumettre, c'est que, en fait, ça dépendrait de la finalité de rôle actentiel. C'est-à-dire qu'on peut être la même personne. La même personne, prenons l'exemple de Abdelkader Bensassi, il est, par exemple, dans un rôle actentiel d'architecte, il va utiliser un langage de modélisation, mais pour, par exemple, de concevoir, de générer des formes, qui n'est pas le même que le langage de modélisation qu'Abdelkader Bensassi va utiliser parce que pour comprendre et pour rendre intelligible. Et qui n'est pas le même, évidemment, de langage qu'Abdelkader Bensassi utiliserait dans le rôle d'actentiel de la vie quotidienne lorsqu'il communique avec ses enfants ou avec ses amis ou dans son rôle actentiel d'enseignant lorsqu'il s'adresse à une classe, à des étudiants, ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez, donc, il y a, à mon sens, il y a... la notion de langage exprimée par le langage, ou c'est quoi exprimé par le langage, elle est à relativiser chaque fois à un rôle actentiel et à relativiser à chaque fois à une finalité. Maintenant, est-ce que le langage est-il suffisant pour comprendre et rendre intelligible? Maintenant, je rentre un peu dans le contenu. Au-delà de cette distinction entre communiquer, comprendre, générer, voilà. Donc est-ce qu'est-il suffisant pour comprendre et rendre intelligible dans le registre de la connaissance, on peut dire, scientifique? Pour cela, je vais prendre trois exemples de mon parcours de recherche qui se trouvait à différents moments de ma vie, dans le rôle actentiel de chercheur. C'est que il y avait un travail que j'avais fait avec Catherine Duvette sur l'habitat, un type d'habitat en Syrie du Nord, et que si on considère la morphologie comme une expression sensible de ce qu'on voit dans la perception immédiate de l'habité, c'était pour caractériser ces morphologies, et on avait essayé un certain nombre de démarches qui sont connues pour dire comment caractériser ces formes, et notamment pour trouver des systèmes, on peut dire, des proportions, de stylistiques, parce que ces habitats étaient construits après une certaine époque où, par exemple, on trouve un peu par ailleurs un certain nombre de règles morphologiques, notamment en termes de proportions. Et ça n'a pas marché. On ne trouve pas, ça ne marche pas. Et du coup, j'avais utilisé la transformée de Fourier, c'est-à-dire une façon de projeter l'information dans un deuxième espace fréquentiel dans lequel on, et d'ailleurs ce qui était intéressant pour moi, c'était à ce moment-là, c'est de dire que comment le même message peut s'extérioriser dans des formes différentes. C'est-à-dire que la transformée de Fourier, ce qu'elle nous montre, c'est que la même information, on peut la projeter dans un espace fréquentiel, et dans cet espace fréquentiel, en fait, qui se présente à nous complètement différent par rapport à une réalité physique sensible, qu'on a la même information, et si on fait à l'inverse, on génère la morphologie qui était sous-jacente. Par conséquent, l'analyse qui était faite à ce moment-là, c'était... en fait, dans le monde fréquentiel, c'est-à-dire dans une autre représentation, en utilisant un autre langage, qui n'a pas de sens par rapport à nous, les humains, parce que lorsqu'on trouve une série de nombres complexes dans des fréquences différentes, ça ne veut rien dire. Mais l'analyse de ces morphologies dans l'espace fréquentiel a amené à comprendre en fait qu'il y a des systèmes de proportions auxquels, visuellement, et notre culture de perception des façades ne permet pas de les dégager. C'est-à-dire qu'on a été insoupçonné d'arriver et que la culture architecturale et stylistique, c'est-à-dire lorsqu'on cherche les proportions dans une façade, ça ne correspond pas. Ce n'est pas notre façon de voir, au moins notre culture, de voir les choses. Ce qui nous amène à une idée, lorsqu'on veut rendre intelligible, comprendre, peut-être l'évolution de la science, c'était de se distraire du langage de la vie quotidienne pour construire des langages, entre guillemets, scientifiques, qui permettent d'explorer et de connaître les choses. Je prends un deuxième exemple, c'est celui d'une étude qui était faite avec Ferdows Belkadi sur la médina de Tunis, c'est-à-dire que c'était analyser les espaces interstitiels entre le milieu de la maison et l'espace public. Comme vous le savez, il y a toujours une question qui se pose dans ce type d'habiter le rapport entre public et privé et là on peut dire la ciriation, la dégradation entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc il y a toute une analyse syntaxique qui permet de dire que entre l'espace public et l'espace privé au centre de patio, il y a une sorte de séquence qui d'ailleurs qui ressemble même à un langage écrit, c'est-à-dire qu'il y a le verbe, il y a le sujet, il y a le complément. Donc là, on trouve une syntaxe des espaces. Et cette syntaxe des espaces, en fait, arrive à montrer qu'il y a des différences, en fait. Et qu'on peut faire une projection socio-économique, c'est-à-dire qu'on va trouver les séquences les plus riches qui expriment, on peut dire, un certain statut social des personnes, des propriétaires. D'ailleurs, on trouve aussi peut-être dans les quartiers, parce qu'il y a les quartiers, on peut dire, populaires, les quartiers nobles. Voilà, donc on trouve des syntaxes un peu différentes entre les quartiers populaires et les quartiers dits, entre guillemets, nobles. Et par conséquent, on peut s'arrêter à une lecture sociologique, de dire que l'habité, c'est une sorte de projection de la culture, de la situation sociale, économique dans l'espace. Donc on peut faire cette conclusion. Après, on a procédé à un travail de modélisation qui essaye de quantifier chaque syntaxe ou chaque élément syntaxique qu'il a une valeur dans une sorte de modélisation globale. Et ce qui était étonnant à la fin, c'est que la résultante, elle est toujours la même. C'est-à-dire que ceux qui prolongent les séquences en exprimant un certain nombre de motifs économiques, ainsi de suite, plus qu'on augmente les séquences, plus qu'on réduit le degré de filtrage des éléments, sont plus transparents. Plus qu'on les réduit le nombre syntaxique, plus que on peut dire le filtrage est plus fort. Et par conséquent, ce qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est une culture. C'est-à-dire que les Tunisiens de la même époque qui ont construit cette médina, appartenant à la même culture, transfigurent ou configurent dans l'espace cette culture de rapport public-privé, mais dans des formes différentes. Mais finalement, la résultante, c'est-à-dire que leur rapport à l'extérieur, entre intérieur et extérieur, il est le même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schématisation de pensée et qui se projette dans les structures spatiales. Par conséquent, ce qui nous amène à une deuxième conclusion qui ressemble aussi à la première, qui confirme un peu le postulat qui était posé au départ, c'était comment le langage abstrait qui nous éloigne de l'immédiateté, de l'expérience immédiate, permet de comprendre ce qu'on n'accède pas directement. Et je prends un troisième exemple, plus récent maintenant, c'est celui de l'intelligence artificielle. C'est que ce matin, Madame Nadine Raval nous a fait un exposé, mais sur le côté un peu biologique. Mais on arrive à l'idée pour schématiser et simplifier, c'est que finalement, le réseau de neurones, finalement, il manipule un espace latent. Cet espace latent dans lequel c'est une sorte d'un nombre de probabilités, de possibilités, qui se mettent en place suite à un apprentissage qui met en relation un certain nombre de choses. D'éléments d'entrant qu'on met, soit de textes, soit des images, soit des sons, soit voilà, tout ce qu'on... Et après, on a... l'idée ici nous amène à dire, c'est qu'on le voit concrètement aujourd'hui, par exemple, si on prend ChatGPT, par exemple, on est capable de lui, lorsqu'on lui pose n'importe quelle question dans n'importe quel domaine, il est capable de nous répondre, allez, grosso modo, d'une manière, on peut dire, intelligente, qui correspond à une certaine... Alors qu'en réalité, il n'a aucune compréhension de ce qu'il dit. Il a simplement un jeu de probabilités dans un espace latent qu'il a construit à partir des millions ou des milliards, où il y a 500 milliards d'informations qu'il a sur lesquels s'est exercé à apprendre. Voilà. Donc on a aussi cette notion-là qui confirme un peu le postulat de départ, c'est que cet espace latent, en fait, ça revient à dire c'est l'espace, le cadre de référence dont j'ai parlé au départ. C'est-à-dire que j'ai dit le langage, on a deux faces, on a une face de communication, mais une face de comme cadre référentiel, cadre comme un modèle de référence. Finalement, l'espace latent d'un réseau de neurones, il est construit. En fait, l'apprentissage revient à construire ce cadre de référence dans lequel il peut, le système, soit prédire des choses, soit générer des choses, ainsi de suite. Donc le langage, à mon sens, il ne peut pas être dissocié. Ne peut pas être dissocié de la partie, je contrôle un peu le temps, ne peut pas être dissocié de la partie référence qui est importante ici. Pour conclure à travers ces trois exemples, sur ce rapport entre, je regarde un peu la question, donc, entre la valeur scientifique de langage et la compréhension, j'ai envie de jeter comme ça une formule qui certainement est discutable, c'est de dire que c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire plus qu'on s'adresse dans un langage de compréhension du public, plus qu'on s'éloigne de la compréhension scientifique des choses, plus qu'on s'approche de la compréhension scientifique, on développe, donc on est dans un langage d'abstraction, de modélisation, plus qu'on s'éloigne de la compréhension immédiate de langage de grand public. Et ça, ce n'est pas seulement vrai, à mon sens, d'après mon expérience, dans le domaine des sciences dures, qu'on appelle les sciences dures, mais y compris en linguistique, c'est-à-dire aller lire Grimas, par exemple, un des grands linguistes. Vous prenez Grimas et tous les concepts de formalisation, en fait, qui amènent à décortiquer, à analyser les langages, et notamment le langage parlé. En fait, il faut être spécialiste. En fait, c'est comme vous êtes en train de manipuler des intégrales on peut dire les intégrales et les fonctions plus clémentes que les concepts de Grimas.
Voilà, en fait, on arrive au terme, mais oui. pour vous relancer brièvement, en fait, c'est comme si vous assimiliez la scientificité au degré d'abstraction.
Non, pas tout à fait ça. C'est une condition, à mon sens, nécessaire, mais pas suffisante.
Ah, c'est nécessaire. Pour être scientifique, il faut donc un degré d'abstraction.
Selon le langage courant, il existe depuis l'aube de l'humanité,
oui, mais,
il n'a pas permis de langage courant de
Mais vous avez débuté votre propos sur la question du schéma actantiel et du caractère performatif du langage, n'est-ce pas?
Oui.
Donc c'est l'inverse, c'est un langage incarné. Je veux dire, si je vais aux toilettes et que je dis je déclare la séance ouverte, on va me prendre pour un fou, n'est-ce pas? Donc, peut-être. Donc là, on est vraiment dans le concret. Le langage est concret, il performe parce qu'il est dans les conditions de performativité offertes par le réel. Et non pas justement parce qu'il est abstrait. Donc vous êtes parti du schéma actantiel pour dire, in fine, que la scientificité, c'est l'abstraction.
Non, non, c'est pas. Non, c'est quand même, vous faites un raccourci. Ce que j'avais présenté au départ, c'est les rôles actantiels. C'est que on peut jouer plusieurs rôles actantiels dans la vie ou dans une journée ou dans le rôle actantiel de rendre intelligible, dans le rôle de rendre intelligible, de comprendre un certain nombre de choses. On peut, à mon avis, on ne peut pas s'en passer d'un modèle d'abstraction, d'un modèle des techniques, des outils qu'un scientifique manipule, et quel que soit le domaine, soit en sciences humaines, soit en sciences non humaines, il y a quand même je pense dans toutes les disciplines, il y a des méthodes, bien sûr, il y a des méthodes qualitatives, il y a des quantitatives. Donc pour moi, ça, c'est des variantes, c'est pas ça le problème. Mais quand même, on utilise un langage qui n'est pas le même. Naturellement, si on est dans un autre rôle actantiel, par exemple, d'architecte qui conçoit, qui génère,
c'est sûr.
Qui n'est pas le même dans.
C'est sûr, et vous avez parlé des styles et de la grammaire des styles qui se superposent aux écritures individuelles, c'est évident. Mais cette analogie entre l'abstraction et la scientificité, elle est quand même. Alors, est-ce que le langage de ChatGPT est scientifique?
Non. Peut-être je dois clarifier qu'est-ce que j'entends par abstraction. Ce que j'entends par abstraction, c'est simplement cette distanciation que un chercheur met en place en mettant un certain nombre de dispositifs par rapport à l'expérience immédiate. Donc l'abstraction, c'est pas au sens d'abstrait. C'est simplement
une modélisation.
Une modélisation au sens, on peut dire même général, c'est l'idée d'utiliser un modèle, d'utiliser un langage qui renvoie un cadre de référence et qui utilise ses codes, qui utilise ses méthodes, qui utilise ses outils, ses techniques.
Bien. Et c'est vrai, on nous a fait des remarques comme quoi le temps passait. Myriam, je vais te laisser. Jean-Georges Perec, en revanche, vous voyez, le ChatGPT, c'est la banalité sans le talent de Georges Perec. Mais vas-y, Myriam. C'est bon, très dur d'avoir le talent de Georges Perec.
On va revenir, mais d'accord. Je pense qu'il y a matière à discussion sur justement cet aspect-là. C'est dans ton deuxième exemple, Abdelkader, tu as décrit ce que moi j'ai compris comme un langage spatial. Et tu as aussi parlé d'un cadre référentiel du langage qui va schématiser et structurer la pensée et qui, dans cette autre manière de représenter les choses, amène à d'autres perceptions. Et là, j'aimerais voir ce qu'en pense Théo par rapport à son travail autour du son et à cette représentation, on pourrait dire, dans un autre langage du son. Et Théo, à toi la parole.
Ouais, bonjour à tous. On a trop. Juste pour dire que du coup, il y a des images sur le drive, mais elles n'ont pas d'ordre précis. Je n'avais pas prévu ce format-là. Du coup, j'avais pas du tout prévu un format de présentation, en fait, j'avais prévu un format de discussion. Donc je vais un peu improviser sur ce que vous avez vu et puis sur ce que vous avez voulu dire. Enfin, voilà. Mais du coup, les images, elles n'ont pas vraiment d'ordre. À la rigueur, je peux laisser afficher, je ne sais plus comment elles s'appellent, atelier ou quelque chose comme ça. Et vous voyez ce qu'ils sont ateliers. Et puis après, bon, peut-être que je te dirais s'il faut changer, mais il n'y a pas vraiment de. Okay. Juste pour illustrer un petit peu ce que je dis. En introduction, pour remettre en contexte la chose, en fait, comme ça a été dit, je suis architecte, donc je ne suis pas du tout informaticien, ce n'est pas ma discipline, et j'ai fait une thèse. Où le propos central, puisque c'était à la fois l'objet d'étude et le résultat, c'était de développer un outil qui permettent d'entendre ce qu'on dessine. Et donc cet outil, c'est un outil qui s'appelle Esquisson, qui est en fait un plugin qui s'associe au modeler 3D Rhinocéros et qui utilise l'outil de programmation visuelle Grasshopper et l'outil de programmation visuelle MaxMSP. Donc moi, en débarquant dans tout ça, en tant qu'architecte, j'ai dû un peu apprendre à manipuler, alors je le faisais déjà un petit peu, hein, parce que c'est aussi une appétence que j'ai personnelle sur ces questions-là, mais j'ai dû quand même apprendre à utiliser, manipuler les outils de programmation visuels dans un premier temps. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas optimal et qu'il allait falloir que je me colle à la programmation textuelle. Pour justement, pour des questions, on va dire triviales, hein, des questions techniques, quoi. Se dire, il faut que ça marche, il faut que ça soit efficace. Et pour faire rapidement une différenciation, la programmation visuelle, parce que peut-être que c'est pour expliquer très rapidement, mais la programmation visuelle, en fait, c'est peut-être que... Oui, voilà, très bien, merci beaucoup. La programmation visuelle, c'est plutôt ce qu'on va voir sur l'image de droite. En fait, c'est des suites logiques d'opérations, pour le dire simplement, à partir de paramètres. Et donc, ces opérations, elles sont représentées par des boîtes, en fait, des composants, dans lesquels il y a des entrées et des sorties. Et alors, en langage textuel, je parle sous couvert de spécialistes, hein, mais on fait exactement la même chose, sauf qu'on l'écrit. Donc on déclare les variables d'entrée, on déclare les différentes opérations, voilà, et on génère du coup des suites logiques. De la même façon avec le type d'outil, le type de langage visuel ou textuel. Voilà, ça c'est une petite introduction pour expliquer un peu le principe. Et l'outil en lui-même, il a quand même vocation à la fin à produire du son. C'est un peu tout ça l'enjeu, et c'est aussi tout ça le lien avec le fait de comment le langage peut exprimer le monde ou les mondes sensibles, je ne sais pas quoi. À partir de là, une autre question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'on fait un énième outil de simulation, ce qui n'est pas du tout la volonté. Le but, c'est pas de faire un outil qui soit parfait, juste comme le font très bien d'autres entreprises spécialisées sur la question, qui font des outils de simulation très complexes, très chers, très lourds, qui prennent beaucoup de temps, etc. Et qui, du coup, sont capables de faire ce qu'on appelle de l'oralisation, c'est-à-dire la mise en son d'un modèle, de manière assez fidèle par rapport à ce que serait la réalité. Et là, l'idée, c'était de partir sur un outil d'esquisse. Donc, c'est-à-dire, on va permettre d'utiliser l'utilisation de cet outil dans la conception. Permettre l'utilisation d'un outil pour travailler le son, en fait. Et ça implique quoi? Ça implique de sortir de la logique de la simulation qui demande une déclaration ultra précise de toutes les caractéristiques d'un modèle et d'essayer d'amener un peu de flou dans un monde numérique. On va dire fini. Moi, je le dis avec des mots simples, hein, mais ça y est. Quand on se pose la question de l'esquisse numérique, la réflexion sur l'esquisse et l'outil numérique, en fait, souvent, ce qu'on va beaucoup trouver dans les travaux sur l'esquisse numérique, c'est quand même beaucoup un angle visuel, c'est-à-dire comment on complète, comment on remplace l'esquisse à la main, en fait. Et là, la proposition, c'est justement, et donc c'est là le lien avec les langages et avec le langage textuel, c'est justement de mobiliser l'outil numérique pour explorer d'autres sphères du sensible que le visuel, qui vont être plus difficilement accessibles par le dessin, hein, justement, parce que si on veut faire du son par le dessin, ben, on va passer par une phase de représentation supplémentaire. Et c'est là où le langage de programmation va devenir un outil de médiation ou de traduction d'une donnée qui est en fait une donnée chiffrée, une donnée numérique, pour le dire simplement. On va avoir des valeurs simples. Dans un modèle 3D, on va avoir des valeurs de distance, on va avoir des valeurs d'intensité, on va avoir des valeurs de proportion entre les choses, éventuellement qu'on peut extraire. Mais l'idée, c'est que par le langage de programmation, on va être en capacité de traduire ces informations numériques avec une série d'opérations, une série de règles, pour directement former un modèle d'oralisation. Et donc, directement générer une scène sonore à entendre. Donc on part, comme je disais, de données géométriques, on les traduit dans un langage textuel, donc on a déjà une première étape qui se passe, qui nous permet la création de quelque chose de nouveau, on fabrique quelque chose de nouveau avec ce langage textuel, Parce qu'on l'envoie à un modèle de réalisation, donc on crée une sorte de modèle acoustique. Et ce modèle acoustique, on va encore repasser par une phase de traduction, puisqu'on va le transformer en son à écouter. Et donc là, j'y reviendrai plus tard si j'ai le temps, mais on pourrait presque extrapoler et dire que c'est un nouveau langage. Est-ce que la perception sonore, elle peut être décrite à travers des codes et des signes, comme disait Nathalie? Pourquoi pas? Et donc, on se rend compte qu'avec cet objectif d'esquisser une ambiance sonore à partir d'une situation projetée, comme je le disais, on mobilise différents langages. Et que surtout, on est à la fois, parce que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, alors un peu comme Nathalie, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée, la question du langage. C'est l'occasion en fait de se poser la question-là. Même si l'outil de programmation comme outil de création, c'est quand même un sujet qui revient souvent et qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même la question du langage à proprement parler, qui est quand même une question assez vaste, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et je trouve ça très très intéressant de se poser la question. Et moi, en me posant la question sur mon propre travail de thèse, du coup, je me suis dit, en fait, pour moi, le langage, c'est. On pourrait le découper en deux choses. On pourrait dire à la fois le langage, donc on a le langage médiateur, et à la fois on a le langage créateur. Et les deux fonctionnent un peu ensemble. C'est-à-dire que, pour exemplifier ça autrement que par le langage de programmation, je pense à l'écrit, par exemple. Moi, je sais que ça fonctionne comme ça, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. En fait, quand on écrit pour. Donner à lire diffuser un message, et en même temps on écrit aussi pour soi. Quand on écrit, on crée, on fabrique, et donc on utilise le langage comme un outil de création. Et donc ces deux pôles du langage, je les trouve très très intéressants et en fait très très présents dans tous les langages, mais particulièrement dans l'outil de programmation, parce que c'est un outil que j'ai découvert en autodidacte, et donc je me suis rendu compte de ses potentiels en disant ah oui, en fait c'est assez incroyable. Comment quand on décadre sa posture par rapport à une manière de faire, ça ouvre des possibles, ça ouvre des champs possibles, ça crée des contingences, etc. Bon, je vais un petit peu, mais ça intéressant. Donc ici, on va utiliser ces pitons, mais ça pourrait être un autre. Ces pitons, pourquoi? Parce que, comme je disais, je ne suis pas informaticien, et c'est quand même un langage de programmation assez simple, on va dire, d'utilisation. Et on l'utilise pour traduire de la donnée et créer de nouvelles informations. Donc en fait, on crée un algorithme. Donc l'exemple qui est souvent donné de l'algorithme, on ne peut pas le refaire là, mais c'est la recette de gâteau. La recette de gâteau, c'est un algorithme. Et on donne à entendre avec ça. Et donc, comme je disais, travailler le code, travailler le script pour concevoir. Et ça, c'est valable pour moi. Je me suis rendu compte au-delà de l'outil d'oralisation, mais pour tous les outils. Qu'il mobilise, et donc particulièrement en architecture, on utilise aussi beaucoup ça pour de la modélisation, de la morphogenèse et puis de l'évaluation, c'est de changer de logique dans la manière de concevoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mimétisme de la main, comme le font les outils numériques de CAO, donc de conception assistée par ordinateur, où en fait la souris va être le mimétisme de la main, et donc du dessin analogique. Là, on prend l'outil vraiment pour ce qu'il est dans une couche un peu plus basse, on va dire, et on réfléchit à des suites d'opérations, à des suites de règles qui vont construire une séquence. Et après, et on réfléchit à des suites de règles pour générer de la forme, ou pour générer du son, ou pour générer de la couleur, ou peu importe. Et en fait, on n'est plus dans un mimétisme d'analogique, on est vraiment dans prendre l'outil pour ce qu'il est et essayer de fonctionner avec son fonctionnement, quoi. De fabriquer, de concevoir, de créer, directement avec son fonctionnement et donc d'une certaine manière avec son langage, même s'il y a déjà une traduction, parce qu'on sait que les langages informatiques c'est déjà une traduction d'autre chose, et les premiers ordinateurs c'était des switches qu'on manipulait à la main et c'est sûr que l'on manipule. Mais voilà, pour dire que dans la logique quand même, le langage de programmation est beaucoup plus proche de la logique de la machine que l'analogie à la main. Et donc ça fabrique pour moi toute une manière différente de penser l'outil de conception. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus travailler sur un objet fini, mais plutôt sur une typologie, des types de finalités qu'on va pouvoir décliner en fait, en changeant simplement un paramètre ou deux paramètres. Là encore, si on reprend la recette de cuisine pour l'algorithme, si on décrit le processus pour arriver à un gâteau au chocolat, donc on a les ingrédients, on a les différentes opérations dont on doit faire avec ces ingrédients, mais on peut parfaitement changer la quantité d'un ingrédient. parfaitement changer de manière subtile ou radicale quelque chose dans la recette, on aura toujours le même type de résultat. C'est-à-dire que ce qu'on a construit, la recette, c'est, elle ne va pas définir un objet précis, elle va définir une manière de générer un type d'objet, pour le dire un peu simplement comme ça. Donc la complexité de tout ça, pour revenir un peu au phénomène sensible, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, je vous dis, j'improvise un peu en même temps, je construis, mais la complexité pour revenir au phénomène sensible, c'est que l'outil numérique, en fait, il demande une précision d'information pour chaque choix. En fait, avec l'outil numérique, il n'y a pas vraiment, au début, à la base, si on n'intervient pas pour générer ça, il n'y a pas d'approximation possible. Chaque point, dans un modèle géométrique par exemple, chaque point, chaque ligne, ou même dans un modèle numérique, chaque valeur, elle existe exactement telle qu'elle a été déclarée, enfin telle qu'il a été déclaré. C'est que mathématiquement, spatialement, graphiquement, on déclare quelque chose et ça, c'est exact en fait. Même si au final, en tant que, à l'interface entre les deux, on ne sait pas vraiment, on pourrait positionner par exemple un point dans un modèle géométrique, on pourrait le positionner plus ou moins à cet endroit-là. Bon, l'espoir, on ne l'a pas placé là parce qu'on sait exactement qui sera là au millimètre. Mais l'outil numérique, il a besoin d'une déclaration finie. Et donc ça, c'est quand même un problème quand on parle de représenter ou traduire ou travailler, ne serait-ce que travailler les phénomènes sensibles, parce que parfois, on va avoir besoin de cette approximation. Pardon. Et donc dans la conception ou dans la représentation, on va avoir besoin de cet entre-deux. Quand on fait une esquisse à la main, l'intérêt de l'esquisse, c'est justement, on ne fait pas un trait et puis c'est fini. On fait un trait, puis on repasse dessus, puis on en épaissit, puis en fait, on rajoute des couches. Et en épaississant certains traits, on leur donne de la valeur. Et donc certains traits qu'on a fait au début disparaissent, même si on ne les a pas effacés. Et par approximation de choses, on construit quelque chose. Et c'est assez difficile de se dire comment on fait ça avec l'outil numérique ? Comment on fait ça avec le langage de programmation qui demande des déclarations finies ?
Donc nous arrivons au bout et on nous rappelle à l'ordre dans la salle. Je ne sais pas si vous
n'avez pas vu. Je peux m'arrêter là-dessus, c'est très bien.
Justement, je pensais que c'était sur cette question que vous posez sur peut-on parvenir à épuiser le réel ? Eh bien, nous y sommes au fond.
En fait, là, tu décris ce que tu souhaiterais pour, au niveau du numérique pour amener ce flou nécessaire pour représenter le réel, ou au moins pour l'esquisser. Et j'ai beaucoup apprécié ton analyse du langage, à la fois comme médiateur et créateur, que tu as, instancié dans ton expérience. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage à la fois qui cherche à représenter du sensible, mais avec un outil que tu nous as décrit comme assez insensible.
Impitoyable. Impitoyable, on va dire. On enchaîne. Alors, Clémentin, ça va être à toi de prendre la parole. En deux mots, Clémentin, il travaille au Sensual City Studio de Jacques Ferrier. Où se posent des questions notamment qui ont été évoquées ce matin sur les odeurs ou les couleurs, puisque la charte d'ambiance des gares du Grand Paris Express est à sa charge. Et puis Jacques Ferrier, c'est quelqu'un qui a, je pense pas que vous l'aimiez beaucoup, enfin vous avez des réticences et on peut les comprendre, mais il n'en reste pas moins que c'est le premier architecte qui a explicitement dit qu'il avait essayé de dépasser la vue comme sens traditionnellement utilisé, employé par l'architecte pour représenter le réel. Il a dit qu'il y avait cinq sens. Bon, après, on peut en débattre, c'est pas l'enjeu de notre séance, mais c'est quand même quelqu'un qui a essayé de bifurquer parmi les architectes, et sans pour autant bifurquer vers la recherche, en continuant à faire du projet. Et donc, Clémentin travaille chez lui depuis des années maintenant, il s'est engagé en thèse sur la littérature, je vais le laisser parler de son travail, évidemment, et il y a des choses qui recouperont ce qui ont été dit au tout début par Nathalie sur la question du réalisme. Clémentin a travaillé dans un domaine sacrément pollué à l'origine, puisqu'il a fait un mémoire de master avec moi il y a 10 ans sur Michel Houellebecq. Michel Houellebecq qui est le réel. Et donc à l'époque, j'avais même une collègue, pour ne pas la nommer, Isabelle Chéneau, qui avait refusé en séminaire qu'on puisse travailler sur cet écrivain. Là, on n'est plus dans l'abstraction mathématique. Et je lui ai dit, pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le droit, c'est pas un mec bien. Mais il n'a pas encore fait l'entretien avec Michel Onfray dans Front Populaire, mais c'est vrai qu'il avait déjà des côtés. Mais après tout, on peut lire Céline, n'est-ce pas? Et le Marquis de Sade aussi. Bref, c'est l'éternel débat. Mais Clémentin s'y est courageusement aventuré, et puis je le laisse un peu parler du terme auquel il est arrivé au bout de 10 ans maintenant.
Oui, merci Jean-Louis pour cette introduction. Je sais pas qui sera à la charge de passer les propos, j'en ai un certain nombre, je suis désolé d'avance, donc j'essaie de vous indiquer à chaque fois comment faire. Moi, pour revenir à cette question des langages, de la question de l'expression, de l'utilisation des langages, en ce qui concerne les architectes, j'en perçois peut-être deux types. Je vais essayer de parler aujourd'hui, enfin, surtout d'un en réalité. D'une part, et je pouvais te passer à la première diapo, le langage architectural, hein, cette espèce de quête, cet idéal qui fascine la profession, qui obnubile le champ, et de l'autre, le langage, c'est là-dessus que je vais m'attentionner un peu plus aujourd'hui, plus des architectes et des urbanistes pour diffuser et partager leurs projets. J'ai mis ces deux images de manière assez fascinante pour introduire mon propos, pour dire aussi, pour dire qu'on pressent, hein, comme analysé par la presse spécialisée assez récemment, un retour à une forme de langage simple, épuré, limpide, dans la production architecturale contemporaine, en réaction peut-être à la profusion des langages French Touch en tête, hein, et à la cacophonie à laquelle elle nous avait depuis quelques années un peu habitués. Il était en retrouver un certain canon, une certaine harmonie, des choses simples face à la surexpressivité, hein, des bâtiments des années 2000 ou 2010. À travers une syntaxe réduite, un langage simple, hein, pour exprimer, disons, la nature d'un bâtiment. Vous avez à gauche un centre de loisirs construit à Saint-Cloud par l'agence Cause en 2009, si ma mémoire est bonne, et à droite, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, un programme sensiblement similaire, un gymnase à Nice construit par l'agence CAM. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Mais juste pour introduire et me dépêtrer de ce champ-là, je parlerai aujourd'hui plus volontiers du second volet, hein, que j'introduisais, de manière de comprendre d'après moi le langage. D'une certaine manière, la dualité entre sa valeur scientifique ou disciplinaire et sa compréhension par le grand public, c'est le langage à la disposition des architectes pour parler, pour diffuser, pour communiquer, au sens noble du terme, hein, rendre intelligible, on en parlait à l'instant, leur projet, leur travail. Et l'enjeu est visiblement de taille. Je vous montre une citation d'une architecte, Axela Quiardo, qui est l'associée fondatrice de l'agence Ella Architecture à Paris, que j'ai interrogée dans le cadre de ma thèse. Et vous le voyez sûrement à l'écran, sa quête est d'arriver à ne pas parler comme un ou une architecte. Donc cette citation, moi je vais vous parler rapidement de quelques démarches différentes assez rapidement, je vais essayer d'être bref, qui semblent toutes en quête de cet Eldorado un petit peu paradoxal, donc arriver à ne pas parler comme un ou une architecte. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Bon, l'agence Ferrari Marchetti Studio et son studio de recherche Sensual City, que je connais bien, comme disait Jean-Louis, pour travailler depuis quelques années, part par exemple de ce postulat que la diversité, disons, des contextes de diffusion de l'architecture nécessite aujourd'hui une diversification des modes de représentation. Et ils tâchent de manière assez large à inventer d'autres outils pour concevoir et pour partager l'expérience d'architecture, en laissant la créativité s'exprimer pleinement et l'inscrivant dans une sorte de philosophie commune avec des éléments de langage commun. Vous pouvez passer à la suivante. Et il part aussi du postulat, je suis assez convaincu également, que la diversité des acteurs et des modes de décision bouleverse la communication, la médiation et la diffusion des projets d'architecture et d'urbanisme. Les jurys ne sont plus exclusivement composés d'experts, de professionnels d'architecture, mais d'élus, de représentants d'associations, d'habitants. On va parler, Nathalie en parlait il y a quelques minutes. Vous pouvez passer. Et par ailleurs, je crois que les questions architecturales et urbaines ne sont plus non plus cantonnées qu'aux revues spécialisées. Elles sont discutées partout et tout le temps dans les grands médias, même si en ce moment, ils sont empiraillés par d'autres questions plus politiques, n'est-ce pas? Mais l'architecture, la ville et les territoires sont désormais, et c'est une chose dont on peut se réjouir d'une certaine manière, considérés comme des biens publics qui mobilisent l'ensemble des habitants. Et donc je pense qu'il est nécessaire, et Karim Marquetti Studio également, d'inventer de nouvelles conventions graphiques, un nouveau langage susceptible d'être compris et d'être partagé par le plus grand nombre. Passer. Merci. Ils cherchent donc à renouveler de manière. Je vous montre quelques exemples à l'écran, les modes de représentation et de communication du projet, mais aussi l'expérience sensible de la ville. Vous avez vu des cartes sensibles jusqu'à présent, des films, des storyboards, différents types de textes. Et si vous passez à la diapo suivante, un film en réalité virtuelle qui a été réalisé à l'agence il y a quelques années maintenant, 2019 de mémoire, et qui présente trois villes, New York, Shanghai et Marseille, dans laquelle d'une quinzaine de minutes, qui met en avant l'expérience sensible des trois grandes métropoles mondiales. Tout ça pour dire que voilà, cette espèce de tentative à l'agence de nouvelles conventions, de nouveaux langages graphiques, ça répond en fait à la variété de. Aux différentes déclinaisons nécessaires en fonction des publics, mais aussi des contextes de réception auxquels l'architecte est en fait en permanence sommé de réagir. Chaque public, chaque situation demandant une façon, dans la dimension également bien particulière, de représenter, de transmettre ce qui fait la valeur et le sens d'un projet. Et je vais aller très rapidement sur un autre phénomène que j'essaie d'analyser dans ma thèse. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Vous parlez très rapidement de d'autres agences, petites combinoscopes tout mignons à l'appui, qui s'emparent différemment de cette question du langage et s'entourent en fait d'écrivaines et d'écrivains de manière plus ou moins stratégique, plus ou moins instrumentalisée, afin de rendre intelligible leur travail. Vous voyez à gauche Célia Houdard et l'architecte Sarah Bitter de l'agence Metech, au centre l'écrivaine Fanny Taillandier et Patrick Bouchain, que vous devez reconnaître. Architecture urbaniste, et tout à droite, l'agence TDK, Antoine Vigicolaire et Pierre Lintrevelot, et l'écrivain Aurélien Bélanger. Des formes de collaboration prennent vie avec des missions assez inédites, je dois le dire, entre ces écrivains, ces écrivaines et les architectes urbanistes, vous voyez à l'écran, qui est aussi entre des sortes de faire-valoir et des revendications intellectuelles, et des mouvements un tout petit peu plus instrumentalisés, je vais dire dans un instant. Vous pouvez passer à la diapo suivante, je vais vous parler rapidement du premier exemple, donc c'est la collaboration qui a eu lieu entre l'architecte Sarah Bitter, donc l'agence Metech, et l'écrivaine Célia Houdard, en tâchant de répondre à la question que s'est posée et qui taraude l'architecte, comment dire le sensible si difficilement verbalisable. Je crois qu'on en fait l'expérience depuis ce matin, la question arrive toujours à la même conclusion, comment faire. Pour revenir juste sur la genèse un peu du livre que vous allez voir des doubles pages dans un instant, Sarah Bitter faisait face je l'ai interviewé il y a quelques temps, un choc traumatisant qui constitue l'inculture de ses commanditaires au cours d'un chantier qu'elle a mené rue Crimée dans le nord-est parisien pour le compte du bailleur social 32 Palacité et Logician, qui est de mémoire, c'était une trentaine de logements sociaux, quelques ateliers d'artistes et de commerce dans un cœur d'îlot du 19e arrondissement, qui projet qu'elle avait en 2017. Sarah Bitter se demandait comment, en fait, elle était en quête de nouveaux moyens d'expression et a décidé de faire appel à plusieurs artistes pour augmenter la présentation et la documentation de son projet architectural, à commencer par une vidéaste qui s'appelle Sophie Conté-Couillaté, dont vous voyez à l'écran des photogrammes du film qu'elle a réalisé pour l'occasion, et une écrivaine, donc Célia Houdard, initialement censée écrire des fragments des textes pour la bande-son du film. Le film en question met en scène, vous voyez sûrement, c'est singulier, un philosophe, une personne du genre Attali, une danseuse et architecte, qui s'appelle Alice Martens, et une compagnie de danseurs verticaux, donc vous voyez quelques exemples à l'écran, et des acrobates de la compagnie Retour à nous. Et l'écrivaine, donc Célia Houdard, vous pouvez passer à la diapo suivante, qui a écrit 212 fragments, comme autant de fenêtres, me semble-t-il, une analogie comme ça entre le nombre de fragments écrits et le nombre de fenêtres du projet, qui ont été, une fois la bande-son écrite, éditées chez Minuit sous la forme d'un livre intitulé Villa Crimée, dont vous connaissez peut-être déjà l'existence. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecte Sarah Bitter se félicite, évidemment, en effet polyphonique et hybride de la démarche qu'elle a initiée, dont elle dit ne jamais avoir vu l'équivalent. Je confirme. Et ce qui l'intéresse, c'est là où ça devient assez saillant pour nos questions, c'est que le projet, donc, qui est un projet dont le programme est assez ordinaire, hein, une trentaine de logements sociaux dans Paris, en fait, le projet a d'une certaine manière basculé dans la fiction, dans la mesure où l'architecte dit que les gens qui l'entourent parlent désormais de projet en mouvement le livre qui s'appelle Villa Crimée. Et elle se félicite de ça en disant qu'un objet bien réel utilise aujourd'hui son nom fictionnel pour le nommer. Elle se félicite également d'une autre chose, c'est que Célia Houdard, qu'elle a fait travailler sur ce projet, a été, recrutée dans le monde de l'architecture, par les institutions, par les agences qui font désormais appel C'est un truc qui font désormais appel à elle est devenue, je la cite à nouveau, elle serait devenue l'écrivain ou l'écrivaine des architectes. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Les deux dernières démarches que je vais vous présenter rapidement pour éviter de trop empiéter sur votre déjeuner, c'est, et j'en ai parlé ailleurs, donc je suis désolé si certains ou certaines ont déjà entendu mes propos à ce sujet, mais deux autres démarches plus difficiles à illustrer, mais dont je vous rappelle à l'écran les grandes lignes, c'est les collaborations entre Fanny Taillandier, Patrin et La Preuve par 7, et Aurélien Bélanger avec l'agence TDK. Pour le dire très rapidement, en fait, Taillandier, qui était déjà identifié dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme pour avoir écrit un livre complètement original sur les lotissements en 2015-2016, a rejoint la démarche La Preuve par 7, qui est une démarche portée par Patrick Bouchain, l'agence d'architecture Palabre et Plateau Urbain, qui travaille sur l'urbanisme temporaire, après avoir repris ses études en urbanisme. Fanny Taillandier a fait une dizaine d'années d'exercice dans l'enseignement, a repris ses études et est devenue urbaniste. Et s'il avait le sentiment de se comporter à proprement parler en littéraire, en écrivaine pour le travail qu'elle a mené avec eux, elle est consciente que Bouchain a fait appel à ses services parce qu'elle était pas insensible à son parcours et qu'il cherchait des profils précisément différents des architectes ou des urbanistes classiques, disons, capables de penser, conceptualiser, problématiser. Et apparemment, on ne serait pas capable de faire des cerveaux, pour reprendre son expression, qui réfléchissent d'une autre manière, pour la citer. Donc faudrait comprendre un peu les enjeux et les problématiques engagées par la discipline, sans se les ronger d'après par les types de langage inhérents à la profession, tout paradoxe semble être là, en quelque sorte, cette fameuse équation si difficile qui démontre que ceux qui font la ville et ceux qui en expriment l'expérience parlent de deux choses absolument différentes. Et pour terminer, Aurélien Bélanger à l'agence TVK, qui est une démarche encore sensiblement différente. Bélanger encore davantage connu, je pense, chez les architectes, hein, pour écrire assez régulièrement sur leurs objets et sur leur champ. C'est à travailler, lui qui s'auto-représente comme, je le cite, un dandy esthétique, hein, pour prendre ses propres mots, et qui s'intéresse au sublime urbain. Il se plaît à convoquer, pour ceux et celles qui ont déjà vu ses romans, des architectures qui s'ouvrent d'une certaine manière d'une représentation assez malmenée, hein, par l'imaginaire collectif, hein, des bâtiments assez vivants, hein, qu'il faudrait regarder autrement pour en apprécier, disons, la beauté inavouable. Quoi. Et cet avant-gardisme, d'une certaine manière, qui conscientise, hein, et qui l'assume, il le partage donc avec l'agence TVK, qu'il a contacté dans le cadre de la carte blanche que l'agence tenait à la Cité de l'architecture en 2015. Et la collaboration entre les deux s'est poursuivie. Des textes ont été produits pour la charte des espaces publics du Grand Paris que l'agence a développée. L'enjeu étant de mobiliser des outils classiques de littéraire, hein, des déambulations, des dérives, pour écrire des chroniques sur le territoire grand parisien. Et juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que Bélanger assume, je l'ai interrogé à ce sujet, il assume vraiment avoir participé à travers sa démarche à ce qu'il appelle de l'évangélisation subtile, à savoir adoucir un effet éventuellement trop technique et plombant auprès de décideurs, hein, qui étaient invités à venir bénéficier de conférences thématisées que lui-même avait la responsabilité de conclure en lisant ces textes inédits. Vous voyez un peu la manière dont les écrivaines et les écrivains peuvent être utilisés ou instrumentalisés par les agences d'architecture. Et vous pouvez passer à la dernière diapo. Je conclurai sur cette citation d'Olivier Mangin, qui, à mon avis, est un peu le nerf de la guerre, quoi, qui questionne assez bien, à mon sens, la manière dont les agences tâchent de combiner, hein, les deux langages antagonistes. C'est comme ça que Mangin parle, celui de l'écrivaine ou du poète, ou l'écrivain, et celui de l'urbaniste et de l'architecte. J'espère avoir pu profiter sur les 10 ou 15 minutes qui m'étaient octroyées.
Bien, merci Clémentin. Peut-être juste une petite question un peu pénible à te poser, mais après tout, c'est mon rôle. Roland Barthes, 1968, il écrit un article sur la mort de l'auteur. Bon, la mort de l'auteur rétrécit sous la textualité, c'est-à-dire la clôture du texte. Donc on va s'intéresser au texte, au champ clos du texte, à ses rotules, à ses significations, à ses points d'articulation et la vie de l'auteur, qu'importe. 74, Roland Barthes par Roland Barthes. Bon, ça, c'est très nombriliste comme titre. Et en plus, dans Roland Barthes par Roland Barthes, il dit « Au bout du bout, nous désirons l'auteur. » Okay. Donc, il y a un côté midinette chez chacun. Il y a l'idée qu'on va se projeter dans une vie, une œuvre, au-delà de la rationalité, de la clôture du texte et de son analyse d'inspiration structuraliste, structuralo-linguistique. Par rapport à ton travail, est-ce que, à ton avis, au bout du bout, là, au bout de 10 ans de travail sur ces questions, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit qu'une petite différence narcissique? Ou est-ce que ça produit un langage vraiment nouveau? C'est une question un peu pénible à midi et demi, mais...
J'ai du mal à croire que ça perçoive, enfin, que ça produise vraiment un langage nouveau. Enfin, disons que ce sont des tentatives, qui sont des tentatives que, enfin, pour reprendre, disons, la première partie de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, les architectes essayant de multiplier, disons, de diversifier leur manière de diffuser leur projet. Et je crois que c'est pas nouveau. Hein. Je vous ai montré des exemples que je connais mieux. Et disons la palette qui est à leur disposition pour le faire. Et je pense aussi, bon, c'était un peu, je ne sais pas à quel point c'est cynique, je pense que c'est ce que j'essaie de vous faire lire aussi un peu entre les lignes, c'est la manière aussi dont on convoque ces outils pour, je pense, non seulement analyser le bon mot, mais en tout cas, essayer de vraiment se conformer ou s'adapter à l'auditoire qui est notre, l'architecte devant, devant être capable de multiplier comme ça ses casquettes, puisqu'il est mené à parler à des gens qui sont, qui ont des cultures, absolument différentes.
Ben oui, ils rendent un service rémunéré, en l'occurrence. Hein. Et est-ce qu'il y a un d'entre eux, est-ce que tu t'es arrêté sur... Ah oui, là vraiment, j'ai lu un texte qui fait passer le projet dans un autre univers.
Moi, personnellement, pas trop. c'était la question qui est un peu à l'initiative de le travail que j'essaie de conclure en ce moment même, enfin, que je mène depuis ces longues années. Mais ce qui est intéressant, Emmanuel Rubio, qui est prof à Nanterre, disait il y a quelques années, demandait justement à Bélanger, lui demander si, d'après lui, Bélanger venait de sortir son bouquin qui s'appelle Le Grand Paris, s'il pensait que les écrivaines et les écrivains construisaient, c'est le mot qu'il a utilisé, hein, construisaient le territoire autant que les architectes. Mm-hmm. C'est une question posée à une dizaine ou une quinzaine d'architectes différents dans un entretien que j'ai mené pour mon travail. Et chacun et chacune était d'accord pour dire que d'une certaine manière, oui, en fait. Parce qu'à partir du moment où l'architecte a délivré son travail, conçu, développé et bâti, construit son bâtiment, il appartient à celles et ceux qui sont vraiment capables de raconter la manière dont il s'inscrit dans un territoire, de créer un imaginaire. L'architecte étant finalement assez incapable et n'ayant pas les outils nécessaires pour le faire. Donc pour répondre à votre question, je ne suis pas certain que ça ait changé fondamentalement la production, la manière de faire le projet, mais je crois que les architectes sont de plus en plus conscients qu'il appartient peut-être éventuellement à d'autres, qu'il est stratégique, hein, de mobiliser dans des phases, hein, disons, le plus tôt possible dans la conception du projet, pour réussir à le communiquer et éventuellement à l'instrumentaliser.
Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a vu des expressions très différentes de la notion de langage, donc en allant du langage de l'expression à la construction, à travers différentes médiations que ce soit des modèles ou des récits lors de cette table ronde. Et je vous remercie tous les quatre.
Est-ce qu'il y a des questions?
Non.
Non.
Non, je peux me permettre de vous rappeler qu'il faudrait regarder un. On reprend qu'à 14h30, mais il est 13h10.
Oui, il faut que ça arrête.
Et il y a une exposition donc disponible, et surtout ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir Pocorolis et la présentation de Théo Pocorolis. Donc ça serait bien de garder un petit peu de temps avant, le temps de déjeuner et le temps d'aller voir un peu cette exposition. Il y a des documents très intéressants, enfin, ce serait dommage de s'en priver. Donc c'est pour ça que. Désolée Clémentin.
Merci à tous.
Désolée.
Merci à tous.
Merci.
Merci.